c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 dans le Périgord depuis Coulommiers-Chamiers. En banlieue de Périgueuse, sur un rayon de 60 km. Chers auditeurs, bonjour pour ce nouveau direct depuis les studios. C'est Stéphane, c'est RLP Business. Nous allons parler économie, nous allons parler pharmacie, nous allons parler médical, nous allons parler paramédical, TPE, PME, petites sociétés, grandes sociétés, big pharma, contraintes et autres. C'est un sujet extrêmement intéressant. Nous avons avec nous pour cela monsieur Julien Migaud. Monsieur Julien Migaud est pharmacien périgourdin de souche, si je puis me permettre, avec une petite pharmacie, une grande pharmacie. Monsieur Julien Migaud, bonjour. Alors, une pharmacie à l'Agora.
Oui. À Boulazac.
À Boulazac.
Une à Périgueux.
Une à Périgueux.
Voilà. Voilà. Alors, je ne tiens pas à faire de publicité non, qui non, est mais totalement c'est... interdit. Mais
je commence toujours mes émissions par définir l'origine de la voix, voilà. Qui est-ce qui parle et voilà. D'où il
bien
parle.
Sûr. Bien sûr, bien sûr.
Vous avez déjà eu aussi, me semble-t-il, quelques activités syndicalistes, militantes.
Voilà.
Expliquez-nous un petit peu.
Tout à fait. Ben, mon métier m'a amené par approfondissement global du milieu de la pharmacie à prendre la responsabilité syndicale. Bon, prendre la présidence du syndicat des pharmaciens de Dordogne. Donc bon, pour certains d'entre vous qui ont suivi l'actualité depuis maintenant 10 ans, on voit un petit peu ma trombine de temps en temps dans les journaux et sur les radios du Périgord.
Ok, bon, ce qui m'intéressait, c'était pour vous parler, parce qu'il y a du fond, il y a du contenu, il y a la profondeur. On va pouvoir aborder certains sujets dont on se pose des questions au niveau sociétal et autres, c'est très bien.
Bien sûr.
Écoutez, première question, qu'est-ce que c'est qu'être pharmacien? Parce que en fait, pharmacien, c'est quoi? C'est la personne en blouse blanche qui vend les médocs, là? Qu'est-ce que c'est?
Alors,
que le pharmacien?
Alors, de manière large, c'est... Enfin, primaire, c'est complètement ça. Hein. On délivre
c'est
une...
C'est bien plus que ça.
Je vais approfondir, quand même. Je vais pas me tirer une balle dans le pied tout de suite. Alors, bien évidemment, qu'on donne la liste de commissions. Voilà. Pour grossir les
ça,
choses.
Ça, c'est la fin du process.
Voilà.
Il se passe plein de trucs
alors,
avant.
Alors, être pharmacien, c'est d'abord... Bon, c'est juste un petit peu d'études. Bon,
6 ans.
Alors, c'est 6 ans d'études.
C'est un doctorat.
Voilà. Et on est docteur en pharmacie. On a besoin, bon, pour...
Pour expliquer aux gens, docteur, on fait une thèse. Et donc, on est censé expliquer une partie de la connaissance humaine qui n'a pas encore été documentée.
Voilà.
C'est ça. Donc, on va quand même relativement loin.
Voilà. Il y a des thèses de recherche, il y a des thèses, des thèses pratiques et il y a des thèses bibliographiques que font la plupart des pharmaciens. On compile les données sur un sujet donné que nous donne un professeur à la fac ou un sujet que nous, on estime intéressant, important. Voilà. Bon, en l'occurrence, en 2003, j'ai fait une thèse en sortant de la fac sur les médicaments de l'obésité.
D'accord.
Parce qu'il y avait une actualité brûlante autour du Mediator. Et voilà.
Donc, est-ce qu'un docteur en pharmacien est capable d'inventer des médicaments, de faire des préparations, de créer, voire déposer des brevets et autres?
Ah, complètement.
Docteur en pharmacie, c'est que l'officine ou c'est autre chose aussi?
Alors non, il y a trois branches en pharmacie. On nous demande de faire un choix quand on est à la fac. On s'oriente soit vers la pharmacie d'officine, soit la pharmacie d'industrie, soit la pharmacie interniste, c'est-à-dire où on passe l'internat et où là on a accès à la biologie, où là pour le coup on est dans une thérapeutique plus analytique à travers l'hôpital, donc on travaille conjointement avec les médecins, mais vraiment d'égal à égal. Hein. Il y a des pharmaciens biologistes. Alors, quand on parle des biologistes en général, on ne fait pas le distinguo entre un pharmacien biologiste et un médecin biologiste.
C'est pour ça que je voulais creuser un peu.
Ce sont deux métiers quasiment similaires. La base des études est la même et après bon, le pharmacien fait dans la thérapeutique, il est là pour aller donner son avis sur tel ou tel médicament dans telle ou telle indication et par rapport à un tel ou tel patient, quand un médecin lui est là pour diagnostiquer, ça c'est vraiment son fonds de commerce, le médecin, c'est le diag. C'est vraiment eux, et ça c'est quelque chose qu'ils font bien, très bien, et que jamais, et au grand jamais dans la vie, un pharmacien ne devrait faire. Alors on le fait de fait sur des pathologies bénignes, et si elle a, on va un peu au-delà de nos attributions à poser un diagnostic. Quand quelqu'un a mal à la gorge, on lui dit qu'il a une angine, je pense pas que ce soit gravissime en soi, voilà, de dire ça. Cependant, on n'est pas censé faire un diagnostic. Donc ça, c'est vraiment, je le rends à la médecine et vraiment, je leur laisse parce que c'est quand même un art qui est très difficile et c'est surtout un art où on peut se tromper et, comme on dit souvent, l'art est difficile, la critique est aisée. Donc,
la responsable du laboratoire de l'hôpital de Périgueux est une pharmacienne, par exemple.
Oui.
Je la connais. Oui. Et ça veut dire aussi qu'elle gère des statistiques, ça veut dire aussi qu'elle gère les stocks de médicaments.
C'est ça.
Voire que des fois, elle fait des assemblages au besoin.
Voilà. Certaines. Voilà. Alors, notamment dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, il y a de l'oncologie. Hein, et l'oncologie est une matière qui évolue tout le temps et où il faut adapter des posologies, faire des mélanges de produits. On est sur des bi-tri-quadrithérapies, on est sur des protocoles très particuliers et surtout des protocoles qui sont partagés sur tous les hôpitaux. Bon, je prends l'exemple de Périgueux. Aujourd'hui, une personne qui a malheureusement un cancer sera soignée par en fait un pool de médecins qui va décider d'un protocole, et ce protocole-là, il est appliqué pareil à Bordeaux, à Limoges, à Pau ou à Périgueux. Le protocole est partagé, si vous voulez. Donc c'est de là où les pharmaciens sont importants dans les centres hospitaliers, parce que ben, ils appliquent les protocoles, et là, on n'est pas sur prendre la petite gélule bleue ou la petite gélule rouge, on est dans la pure la matière première, on est dans on adapte des dosages, on fait des gélules particulières.
Sur l'individualisation.
Voilà, et là, on est vraiment sur un truc hyper pointu et vraiment passionnant pour le coup, et c'est là où pour nous c'est un certain graal en fait,
là, j'ai cru
pour un pharmacien, l'oncologie et la thérapeutique autour de l'oncologie, parce que bon, hélas le cancer avance, voilà, les recherches autour de la sémiologie, donc voilà, l'origine de la pathologie et la connaissance globale au niveau cellulaire, au niveau marquage, bref, tout ça évolue, mais la thérapeutique évolue encore plus vite. Aujourd'hui, il y a des nouvelles classes qui sont sorties. Et voilà, voilà, je prends souvent l'exemple de certains types de pathologies où moi, quand je suis sorti il y a plus de 20 ans de la fac, il y avait certaines pathologies. On nous disait que voilà, le diagnostic était noir. Et
ça,
voilà.
Ça évolue. On sait qu'il y a des choses qui évoluent.
Et aujourd'hui, on est arrivé à rendre chronique des maladies qui étaient fatales il y a 20 ans de ça. Et ça, c'est grâce à la thérapeutique.
Il y a des progrès qui se font.
Il y a des vrais progrès et de vrais de vrais.
Et je crois que parmi les pharmaciens, dans votre population, il y a des gens qui se sont rendus célèbres car ils ont trouvé certaines choses, me semble-t-il.
Alors, ils ont trouvé, oui. Bah, de toute manière, l'étude de la globale de la médication depuis l'aube de la médication, c'est par accident que Sir Ian Fleming a découvert les pénicillines, c'est par, alors de manière beaucoup plus légère, que ben, en voulant chercher des produits pour des problèmes coronariens, voilà, pour des insuffisants cardiaques, et ben on a trouvé des produits, des petites pilules bleues, et qui, ma foi, rendent bien service.
Bah, c'est fascinant de voir le pognon, voilà, qu'on peut mettre pour ce genre de choses et pour,
voilà,
la perte des cheveux.
Et tout ça, c'est par pur accident.
Moi, j'avais un oncle, un grand-père par alliance dans les années 20 ou 30, qui était pharmacien à Prégnac. Mm-hmm. À l'époque, pharmacien, c'était aussi un métier qui a disparu depuis, c'était herboristerie.
Ah, l'herboristerie, voilà.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les années 80, je crois.
Ça
c'est des choses qui ont fermé, mais ça revient différemment, mais via la pharmacie.
Tiens, on va en parler.
Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? La pharmacie était très liée aux plantes, et puis on a interdit les magasins purement plantes, et maintenant on retrouve les plantes dans la pharmacie. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une histoire de législation.
D'accord.
De pure législation. Les herboristes étaient... Alors, vrai herboriste, ce qui n'existe plus, hein, il n'y a plus de diplôme, je ne crois pas, à ma connaissance, il n'existe plus de diplôme d'herboristerie. Les herboristes avaient une ils légalité.
Plein de petits pots, plein
alors,
de trucs dedans.
Ils avaient une légalité, oui. Ils avaient une légalité autour de la médication naturelle, autour des plantes, et ils pouvaient poser là aussi, avoir des allégations santé, c'est-à-dire cette plante-là va vous faire baisser votre cholestérol, cette plante-là va avoir un effet hypnotique. Avec, vous voyez, j'utilise vraiment des termes précis et comment dire et opposables. Aujourd'hui, on a en désacralisant un peu cette vraie herboristerie, il y a eu tout un tas de charlatans. Comme on peut croiser tellement sur nos réseaux sociaux
dans
maintenant.
Les westerns, le liquide qui guérit
voilà,
tout.
Voilà, ah. Oui, avec, oui, on a vu ça chez les Dalton. Il y a eu tellement de charlatans qui se sont réclamés de l'herboristerie, qui en fait, il y a eu des accidents parce que clairement.
Enfin, mon grand-grand-oncle a inventé des choses, a déposé des brevets.
Oui,
et
alors,
à l'époque.
Oui, mais.
C'était
vous,
l'époque où on donnait plein de vitamine C aux gens, là.
Vous parlez d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître.
Il y a plus de 100 ans.
Voilà, il y a plus de 100 ans.
Il y a
voilà.
Plus de 100 ans.
Et aujourd'hui.
Mais c'est bien dans l'évolution d'un secteur.
La mercantilisation de cette santé naturelle, parce que. Dans l'idée globale, c'est naturel, donc c'est pas dangereux. Il y a plein de plantes hyper dangereuses, notamment en association, notamment d'interactions médicamenteuses ou de doses qui peuvent se révéler toxiques à assez peu, voilà. Donc, c'est pour ça que ça se manie quand même spécialement. Okay. Et derrière, il y a des gens qui ont fait un peu n'importe quoi.
J'entends des choses dont on viendra après. Je commence à sentir venir le point régulation qu'on va attaquer plus tard.
Voilà.
Mais j'ai une dernière question sociologique sur le qu'est-ce qu'être pharmacien. Vous qui êtes passé par le doctorat, les études à Toulouse et autres, c'est quel type de population qui va là? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui fait qu'on veut être pharmacien? Ce sont des gens qui voulaient faire médecine, dentaire, qui sont là
alors,
comme en droit, qui sont un peu perdus et puis qui se sont trouvés
mal,
ensuite.
Je suis mal placé pour vous en parler.
D'accord.
Je suis très mal placé pour plusieurs raisons.
Parce que c'est familial.
Alors un parce que voilà, moi j'ai pris voilà, je suis tombé dans la marmite quand j'étais jeune.
D'accord.
Alors
donc vous aviez la motivation.
Alors j'avais la motivation.
Vous saviez pourquoi vous y alliez.
J'aimais la biologie, j'aimais la chimie, j'ai toujours un esprit critique.
Est-ce que les gens qui vont faire pharma sont des gens qui veulent faire pharmacien ou ils sont là au hasard pour avoir une bonne paye?
De moins en moins, mais la médecine est pareille aujourd'hui. On a des gens qui, on a des populations qui veulent une rentabilité maximale pour un minimum d'efforts.
Alors, ils y vont plus pour une vocation, ils y vont pour un plan de carrière. Alors, enfin, je veux dire, sans globaliser, c'est une tendance qu'on peut constater.
Qui peut réellement, et là je vais philosopher, qui Allez-y. Peut réellement estimer avoir eu une vocation? Voilà, alors mis à
mon
part
mon grand-oncle
voilà, mis à part
ben oui, mais
peut-être
oui,
peut-être
oui,
peut-être,
oui, oui.
Peut-être.
Bah oui, mais il a
peut-être.
Sauvé les gens, il a inventé
mais
des trucs.
Les vocations souvent c'est une idée philosophée, une idée fantasmée et en définitive voilà, la réalité du métier est différente de notre plan de base, donc
ouais, ça c'est souvent comme ça là.
Voilà, donc dans l'idée oui, bien évidemment que on a une les pharmaciens, les jeunes qui veulent s'engager là-dedans sont des gens qui sont aidants, sont des gens qui aiment la médecine, des gens qui ont une grande curiosité des choses. Oui, ça c'est un fait. Nous pharmaciens, et particulièrement pharmaciens dans la population
médicale, ils veulent
soigner,
ils veulent aider les
gens, voilà. On a une culture générale médicale très importante. Je ne dis pas qu'on est hyper pertinent.
6 ans d'études, c'est costaud. J'ai vu passer les programmes, on vous fait travailler quand même.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la base commune. Alors, à mon époque, entre-temps, ça a changé. Ça fait 23 ans que je suis sorti de la fac, donc je ne peux pas en parler dans la mouvance actuelle. Mais à mon époque, on avait des études médicales. Vraiment médical. Se bouffer des modules de cardiologie, pneumologie, néphrologie, avec de l'anatomie, de la thérapeutique, voilà, où vraiment on avait une vraie formation commune de base. Bon, entre pharmaciens, mais c'était les mêmes profs qui faisaient l'anatomie en médecine et en pharma. Alors, ils approfondissaient probablement moins les choses, bien évidemment, que nous, on nous a pas fait apprendre tous les moindres petits nerfs du bout des doigts, comme on fait apprendre aux chirurgiens orthopédistes, par exemple. Mais, allez, le gros du gros, alors ça paraît être prétentieux hein, de ma part ou de ma profession en général, de dire que, oui, on a une certaine connaissance, mais c'est quand même réel.
La pharmacopée, je crois qu'on dit comme ça, l'ensemble des molécules.
Alors, par contre, la pharmacopée, ça, c'est notre rayon. Et justement...
Il y a de la quantité.
Voilà, les différentes classes chimiques, pharmaceutiques, les différents groupements de molécules qui nous permettent de prévoir un effet... positif ou un effet secondaire ou un effet sur les reins, un effet sur... Voilà. Et ça, c'est notre rayon. Alors, pour le coup, là, on n'a pas du tout à rougir par rapport à la médecine, aux médecins, qui, eux, à l'inverse de nous qui avons reçu une formation pointue en anatomie et sémiologie, donc la sémiologie, c'est l'étude des maladies, on a reçu une formation pointue, mais pas aussi pointu que des médecins. Inversement, les médecins généraux, je m'entends...
Vous avez travaillé les substances, me semble-t-il.
Alors, on a travaillé les substances, la chimie et la thérapeutique, la cinétique du médicament, c'est-à-dire sa distribution en fonction d'une personne, de l'autre, suivant les groupements chimiques de la molécule, savoir si cette molécule-là, elle est excrétée plutôt par voie biliaire, rénale, fécale...
Comment faire carrière la bonne décision.
Voilà, arriver à la distribution du produit. Tout ça, ça c'est notre rayon. Et ça, on n'a vraiment pas à rougir de ça, parce que ça c'est notre rayon. Quand, hélas, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est vrai qu'il y a souvent des appréciations qui ne sont pas graves en soi, mais il y a des appréciations que nous, on donne. C'est notre métier aux médecins. On leur dit, ben voilà, est-ce que tu es vraiment sûr de toi parce que là, voilà. Alors, il y a bon nombre de médecins modernes admettent que, oui, si tu le vois comme ça, effectivement, c'est vrai que voilà, et on a un avis éclairé, et pour le coup, on peut parler d'égal à égal sur la thérapeutique. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a séparé la médecine de la pharmacie de tout temps. C'est justement que, aux grandes dames des médecins, on a un droit de regard. Ce qui, bon, fait grincer bon nombre de personnes, qui ont un ego un peu surdimensionné, mais on a un droit de regard et on a un droit de refus de délivrance si on sait pertinemment que, le médecin s'y gouré et maintient sa dose et on sait que ça va tuer la personne, on a ce droit-là. On a ce droit ultime de refuser une délivrance. Voilà. Bon, maintenant, ça n'arrive jamais, mais c'est...
Durant le Covid, on a entendu des choses quand même. Hein. Mais bon, passons. Là, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on voit beaucoup mieux qui vous êtes. On voit par le chemin par lequel vous êtes passé, donc il y a 6 ans, la quantité, contenu, on va loin, il y a beaucoup de choses. Et puis après, vous, dans votre choix de carrière, on va devenir entrepreneur.
C'est ça.
Et comment ça se passe, ce choc avec la réalité?
J'ai strictement tout dit.
Je vais venir parce que je suppose qu'on vous a jamais appris à remplir une déclaration d'URSSAF. On vous a jamais séqué un statut pour créer une société. C'est eux qui viennent vous prendre tout le pognon qu'on fait à la fin.
Je connais pas.
Vous êtes comme tous les métiers ultra spécialisés. Moi, je suis pas là. Je suis passé par l'école d'ingénieur. Je me suis mis indépendant après. Découverte totale. Donc, vous a pas appris à être un acteur économique. Non, il faut le dire quand même. On vous envoie.
Tous les pharmaciens...
Donc on vous envoie gérer des trucs et tout, avec une formation purement théorique.
Une formation médicale.
Formation médicale, médicale. Et maintenant, après, vous devenez entrepreneur, et vous faites la comptabilité.
Débrouillez-vous.
Bon, ça, c'est intéressant. On va en parler un petit peu. Vous avez fait comment?
Plein d'acteurs qui nous aident. Plein d'acteurs qui nous aident. Bon, les experts comptables sont là pour ça. Le côté purement juridique des choses... j'irai pas plus loin dans mon commentaire, mais l'ordre des pharmaciens.
Peut-être un stage dans une pharmacie existante pour se former un peu, peut-être qu'on n'ouvre pas une officine tout de suite, je sais pas, ça se passe comment.
On peut ouvrir une officine, après il y a des règles de transfert, ça on va pas rentrer dans les détails, mais un pharmacien qui sort de la fac.
Il y a une licence
on achète une licence avec un fonds de commerce.
Alors
la licence en elle-même, non, c'est le fonds de commerce. La licence en elle-même est attachée au fonds de commerce. mars. Et ça, pour revenir
à... La licence taxi, revenir, c'est 500 000, 600 000. Hein,
pour voilà, ben, une licence de pharmacie, bon, aujourd'hui, ça se négocie, je crois, aux alentours des 50 000 euros, juste la licence. Mm-hmm. Bon, ce qui n'est pas grand-chose pour avoir le droit... Voilà, ce qui n'est pas grand-chose pour avoir le droit d'exercer son métier. Bon, ce qui est déjà trop. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, il y a des règles de maillage territorial qui sont détenues par nos instances.
Il y a des contraintes statistiques, on ne peut pas ouvrir autant de pharmacies qu'on veut,
non,
où on veut.
Ah non, ah non.
Qui c'est qui décide ça?
Ça, c'est l'ARS.
D'accord.
L'Agence régionale de santé.
D'accord.
Qui, eux, alors, ils maintiennent les règles. Ils maintiennent le maillage. Mmh. Et ça, et vraiment. Hein, et là, autant, voilà, on peut couiner sur l'ARS sur plein de choses. Voilà. Je ne mâche pas mes mots bien souvent par rapport à l'ARS sur plein de choses que je trouve absurdes. Par contre, là, sur ce coup-là, ils font respecter un vrai maillage territorial. Ils font en sorte qu'il n'y ait pas d'hyper-concurrence entre pharmaciens. Ils font en sorte que le service, au-delà des problèmes purement pharmaceutiques, l'ARS, eux, c'est la distribution de soins. C'est l'accès aux soins à la population. Okay. Et eux, ils régulent ça en fonction des problèmes économiques.
Alors, comme il nous reste 8 minutes, est-ce que la façon dont vous avez étudié, qui est très théorique, et la façon dont vous vous retrouvez après gérant d'une société avec des contraintes et autres, est-ce que ça explique, parce qu'il faut quand même que je pose la question, je suis très surpris de voir un secteur où tout le monde se persuade qu'il est en pleine expansion, parce que ce sont des frais obligatoires, ils sont prescrits, tout ça. Non, c'est l'imagination, c'est une imagination. Et on voit des petites officines qui ferment. Donc, on ne comprend pas. Alors, pourquoi est-ce que les petites pharmacies ferment alors qu'on a l'impression que...
Essayez. Alors, si vous avez un format d'émission en 6 heures, je pourrais vous faire une thèse.
Vous là, avez pour 2 minutes 30, 3 minutes. Voilà.
Non, la vraie problématique aujourd'hui, elle est économique. Aujourd'hui, le prix du médicament, ce qu'il faut savoir, l'élément de base, c'est qu'on a le médicament le moins cher d'Europe. Aujourd'hui, si on a des pénuries de médicaments, c'est pas parce que nos fabricants sont pas gentils ou pas bons ici et là, c'est qu'aujourd'hui...
C'est parce que d'autres payent plus cher.
C'est parce que d'autres pays achètent plus cher le médicament, la matière première qui vient uniquement du Brésil, d'Inde... Et de Chine, c'est les trois pays
délocalisés.
Voilà, parce qu'il n'y a plus rien en France. Mais ça, pour bon nombre de choses. Mais ça, à la limite, c'est pas tant la problématique. La problématique, c'est que le produit fini.
Quand les bateaux, les avions s'arrêteront par manque de kérosène, on en reparlera.
Voilà. Des mots d'Hormuz et le reste, ça risque de nous péter à la gueule, passer mon expression, d'ici 3 à 6 mois. La vraie problématique, c'est qu'on n'a plus rien en France. Bon, ça, c'est un constat, et ça, je n'irai pas plus loin. Par contre, les pays qui se développent, qui ont une vraie activité économique, une vraie activité sociale ici et là, acceptent de payer un juste prix aux médicaments. Quand nous, en France, on ne fait que tout réguler vers le bas. Alors, en France, dès qu'il y a un problème, dès que la sécurité sociale ne va pas bien, vous allumez votre télé, vous avez une croix verte qui clignote. Donc on tape toujours au même endroit, alors là je prends un peu ma casquette syndicale, bien que je ne tiens pas à la prendre, on tape toujours au même endroit, c'est sur le médicament. Les économies, le point de levier énorme qu'ont nos pouvoirs publics, c'est aller taper sur le médicament pour faire de l'économie, au détriment, du pharmacien, à la limite, peu importe, ces cons-là, ils n'ont qu'à pas gagner leur vie, mais ça c'est pas la problématique de la société. Mais en parallèle, c'est que les industriels peuvent plus acheter leurs matières premières et revendre le truc. Quand on voit avec certaines boîtes de médicaments, des grosses boîtes avec des sachets, des ci, des là, machin, ça, c'est un coût logistique de préparation, d'encombrement, de livraison et tout ça, c'est un poids. Tout ça, ça se vend 2,30 €. 2,30 € aujourd'hui, pardon, mais on n'a plus rien pour 2,30 €.
Donc vous dites qu'en fait, il y a un problème de marge.
Oui.
Vous avez un volume, vous gagnez quasiment rien dessus.
Nous, à notre niveau, peu importe. Nous,
et c'est pour ça que vous poussez autant la parapharmacie et les produits annexes.
Alors du coup, les modèles changent. Alors voilà, pour changer le sujet, les modèles changent, on va être obligés, les pharmacies sont obligées d'aller sans compenser, mais aller offrir d'autres types de services, aller donner plus de choix, oui, effectivement, de parapharmacie, et après, il y a, économiquement parlant, y a certains quartiers où les gens n'ont pas de rang, et où ça va pas.
Et après, on vous traite de mercantile.
Et après, on nous dit, vous êtes un salaud, parce que vous vendez un sirop qui était remboursé, il l'est plus.
C'est pas vous, ça.
Alors, si, parce que...
C'est pas vous qui avez décidé qu'il était plus remboursé.
C'est pas nous qui décidons, mais c'est nous qui faisons passer la pilule. C'est nous qui...
Ah, c'est vous qui vous retrouvez face aux gens pour leur expliquer.
Quand les gens, on leur enlève 1 € par boîte de médicaments de forfait à la boîte et que les gens viennent gueuler en nous disant, c'est quoi, vous avez facturé ci et ça à la sécu et moi, on m'a pas rembourser toute ma truc. Ben ouais, c'est la règle du jeu. Mais les gens, ils vont pas gueuler à la sécu ou quoi. Ils viennent nous voir à nous. Ah ouais. Et c'est à nous d'expliquer que ben, c'est la règle du jeu.
Là, je plus sois. Hein. Quand j'étais à Dublin, quand j'étais à Bangkok, ce qui me coûtait cher, c'était pas le médecin, c'était les médicaments. Hein.
Oui,
et d'ailleurs, les assurances me remboursaient l'hospitalisation et les médecins. Et les médocs, dont les assurances bas de gamme, hein, étaient à ma charge. Et je les sentais passer. Hein. Donc, c'est effectivement, je peux entendre ce que vous dites.
Pourquoi le monde entier vient acheter ses médicaments en France, n'importe quel.
Ils prennent l'avion depuis les USA, des fois.
Les gens, ils remplissent leur bagage de médicaments français, parce qu'une boîte d'amoxicilline aujourd'hui qui coûte 2,20 euros ou un truc comme ça, la même boîte, vous la trouvez à 10 ou 12 euros en Allemagne, et la même boîte, vous la trouvez à 50 dollars aux États-Unis.
Ouais, 50 ou 100 même parfois.
Ouais. Mais voilà, donc si vous voulez, on met une telle pression économique, donc on va vous dire, vous êtes des salauds, vous faites de la marge sur le médicament, mais il faut en vendre à des boîtes d'amoxicilline ou de paracétamol.
Moi je comprends, c'est un problème de marge, il faut gagner de volume. Voilà. Et donc les petites officines en milieu rural n'ont pas assez de volume et ne peuvent pas. C'est
tout le monde constate que tout augmente, d'accord. Les loyers augmentent, l'électricité augmente, les salaires voilà.
Et moi j'entends deux choses en ce
moment. Il y a un effet ciseau qui fait que ça peut plus durer sur les petites officines, ça ferme.
J'entends très très bien, si jamais il y a une petite marge et qu'il faut du volume, les petits volumes meurent et donc on va vers une concentration des grosses officines.
La définition de l'effet ciseau.
Et moi j'entends deux choses en ce que vous dites. Un, les médicaments vont augmenter et deux, on entend parler le président tout ça, si on s'aligne par rapport aux autres et autres.
Non. Ça c'est de la langue de bois politique.
Et si les petites officines ferment et qu'il ne reste plus que les grosses, forcément, quand on a moins de concurrence,
les gens viendront chercher leurs médicaments quand même. Ils auront quand même leurs médicaments.
Mais si les prix montent, ils iront les chercher. Regardez l'essence, ils vont vers leur plein. Hein.
Oui. Non, mais le médicament remboursable est réglementé. Le prix est réglementé. Donc, quoi qu'il arrive, il sera toujours le même, que ce soit chez une grosse ou une petite officine. Ce sera le même.
Donc, c'est juste fait, l'argent, il va à Big Pharma.
L'argent, il va à Big Pharma, oui.
D'accord.
Big Pharma prend sa marge au passage, mais moi, étant des deux côtés de la barrière, entre une grosse et une petite officine, je connais parfaitement les règles du jeu. Au niveau du médicament, aujourd'hui, c'est le volume qui est intéressant.
D'accord.
Et parallèlement, sur la parapharmacie, parce que là, pour le coup, on n'en a pas beaucoup parlé, la parapharmacie, c'est la même. Une petite pharmacie de quartier ou avec une moyenne surface, ne peut plus aujourd'hui acheter seul des médicaments. Là, pour le coup, là, c'est Big Pharma, ce sont des laboratoires de produits OTC, comme on dit, des produits conseils. Eux augmentent tant et si bien leur truc. On a honte. Moi, j'ai honte quand je fais des prix, des fois, à me dire, je citerai pas la marque ni le produit, mais une crème pour de l'ange de bébé qu'on vendait. Allez, il y a une dizaine d'années qu'on vendait 8, 9 euros, même moins que ça, ou 6,90, ou voilà, on essaie d'avoir un prix psychologique. Maintenant, on est à 12, 13 balles, j'ai honte.
Ouais, il y a une inflation.
Alors, il y a une inflation, mais en plus,
surtout si
ils compensent leur volume par les prix.
Oui, mais surtout si jamais le parapharmacie qui servait à soutenir la pharmacie, maintenant vend en grande distribution.
Mais c'est pour ça qu'on a un modèle économique sur lequel on essaie de se battre bec et ongle contre Michel-Édouard Leclerc, qui, ceci étant dit, détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, malgré ses grands discours qu'il est le moins cher et qu'il a des pharmaciens dans ses rayons.
C'est une absurdité totale.
Lui, tout ce qu'il veut, c'est vendre le facile à vendre, et il veut nous laisser le technique et le chiant. Parce que ça, il ne veut surtout pas. Il veut appliquer ce modèle et qui est débile dans notre société actuelle. Mais voilà, bon. Ça après.
Julien Migaud, je ne dis pas comment on vous trouve bien, parce que ce n'était pas le but du jeu.
Ah non, pas du tout, je ne suis pas là. Non, moi je veux avoir une analyse froide sur mon métier.
Je voulais vous poser ces questions-là, je vous remercie d'y avoir répondu. Il y a plein de choses qu'on aurait pu évoquer, par exemple, on me vendait les médicaments à l'unité, ici on me les vend en plaquette. Il y a plein de choses qu'on aurait pu, regarder aussi.
Écoutez, une prochaine fois, avec plaisir.
Oui, mais s'il y a une grande pénurie dans 6 mois, je voudrais en parler par exemple, parce qu'on
va pouvoir en parler.
Vous pensez qu'il y a une possibilité?
Oui, à tous les coups. Bon, à tous les coups. Nos budgets sont trop serrés et ça passera pas au niveau de la sécu.
Bon. À tous les auditeurs, à la semaine prochaine. Merci à vous. Monsieur Migaud, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
RLP Business. RLP.
Radio Libre en Périgord.